Excusez-moi.
Vous pourrez dire à votre collègue que j'ai terminé de consulter les documents fiscaux, tous les documents sur la fiscalité. Donc elle peut les renvoyer. Voilà, elle peut renvoyer tout ce qui est fiscalité. Je vous remercie beaucoup. Bon, allez, Daniel. Je sors de la doc de Radio France où j'avais fait venir 6 cartons sur la fiscalité depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, on sait s'amuser à la Bastille, j'y suis. Qu'est-ce que ça apporte de consulter des tas d'archives au fil des coupures de presse? On voit la phobie de l'impôt naître au milieu des années 80. La France, médaille d'argent, des prélèvements obligatoires, c'est dénoncé, la pression fiscale excessive. On va sortir du bâtiment pour rejoindre France Inter. Hop, parce que France Inter n'est pas à l'intérieur de la maison ronde. On sort de la maison ronde. Dans le monde, sinon, à la même époque, en 1984, on a des économistes qui plaident carrément pour la suppression de l'impôt sur le revenu. Et sinon, je disais, dans les années 80, donc il y a toute cette phobie de l'impôt qui naît, et elle est suivie d'effet parce que vont s'engager des grands plans d'allègement. Alors il y a d'abord Delors en 84 qui annonce 65 milliards d'impôts au moins l'an prochain. Ensuite on a Édouard Balladur en 87 qui annonce qu'il va réduire les impôts de 22 milliards. Alain Juppé, qui est le ministre du budget en 87 toujours, il surenchérit sur son propre ministre de l'économie et il annonce 27 milliards. Et puis l'année d'après, François Mitterrand, qui est réélu, annonce un plan de 28 milliards. Bérégovoy va arriver aux affaires, va annoncer 12 milliards de plus. Donc là, on voit qu'on est dans une concurrence. Il y a eu une pression idéologique d'abord, qui est devenue une réalité politique. Et c'est dans ces années-là aussi, dans ces années 80, qu'on voit naître où se multiplient déjà les niches fiscales. Bonjour. On rentre en France Inter, il y a des fumeurs devant la porte. On va monter au 5e, au bureau. C'est dans ces années 80 donc qu'apparaissent, se multiplient les niches fiscales. On a le Figaro qui titre « Comment réduire ses impôts, acheter votre résidence principale à crédit, profiter de la déduction meignerie. » Bon, voilà.
Qu'est-ce que c'est que cet équipement?
Je viens d'aller dépouiller 6 cartons d'archives sur la fiscalité depuis les années 70 pour monsieur Daniel.
C'est bien.
Ça va être l'éclat total, quoi.
Ouais, c'est monsieur Daniel et c'est la Bastille. J'y suis avec François Ruffin. Vive les impôts! Fiscalité, la fabrique de l'inégalité. Flight number 2, arriving from
New York. Bon, Daniel, je pourrais aller à l'autre bout de la France pour illustrer ce reportage. Je pourrais aller me balader à Marseille. Tiens, il ferait beau. Tandis que là, à Amiens, il fait toujours un temps gris. J'aurais pu aller me balader à Marseille, à Toulon, à Nice, aller chercher le soleil au loin. Ça aurait coûté des frais de reportage à l'émission, à la radio. Déjà que chez nous aussi, il y a des restrictions de budget. Comme je pense que mon sujet, là, il peut s'illustrer n'importe où. Je vais juste aller en reportage à côté de chez moi, dans un lycée. Voilà, je suis à vélo, vers le lycée Montaigne, lycée Delambre, au-dessus de chez moi, à Amiens.
Quel rapport, direz-vous, quel lien peut-il bien exister entre ces profs dans un lycée d'Amiens et notre sujet du jour, à savoir les impôts et la fiscalité? C'est ce que nous allons essayer de démontrer. Vous avez entendu notre François Ruffin, le scrupule qu'il a en ce qui concerne les dépenses de cette émission, les dépenses
sponsor.
Non, Radio France. Eh bien, Radio France va nous fournir un excellent exemple de fiscalité. Oui, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a les cotisations, et puis il y a la redevance. La redevance. La redevance qui, chaque année, permet de financer l'audiovisuel public. Chacun des propriétaires d'un téléviseur est taxé à hauteur de 120 euros, à peu près 120 euros chaque année. Très bien. Le total de cette redevance rapporte 2 milliards d'euros avec lesquels on finance, vous le savez, la télévision, Arte, etc. Il y a un quart de ce budget qui revient à Radio France. C'est le budget annuel de Radio France. Environ 500 millions d'euros chacun. Qu'est-ce qu'on fait de ces 500 millions d'euros que chacun d'entre vous, d'entre nous, payons? Avec ces 500 millions, eh bien, d'abord, il y a 4300, 4500 salariés dans cette noble maison. Donc, voilà une entreprise et des salaires, d'abord. Et puis ensuite, ces 500 millions d'euros permettent de réaliser 7 chaînes de radio, 7 chaînes de radio, 2 orchestres, des chœurs, une maîtrise, etc. Si bien que combien ça vous coûte tout ça, hein? Combien ça coûte à chacun d'entre nous? Eh bien, j'ai fait des calculs. Si on considère qu'on a environ au total, sur l'ensemble de nos radios, les 7 radios de Radio France, environ 13 millions d'auditeurs au total, eh bien, ça fait 30 euros à peu près par auditeur par an. Voilà ce que vous coûte ces 7 chaînes de radio qui émettent en permanence, qui produisent 24 heures de programmes et d'informations chaque jour. Alors vous me dites, ah mais attendez, 30 euros, c'est pour ceux qui écoutent, mais il y a ceux qui payent la redevance et qui n'écoutent pas. Très bien. Alors cela, ça leur coûte 38 euros en moyenne par an. C'est-à-dire 3,15 euros par mois pour avoir tout ça. C'est-à-dire 10 centimes d'euros par jour. 10 centimes d'euros par jour. Et je parle que de ceux qui payent la redevance. Vous me suivez toujours? C'est-à-dire que France Inter vous coûte 1 centime d'euros par jour. Et qu'il faudrait diviser 1 centime d'euros par jour par 24 émissions, hein, 24 tranches horaires, pour avoir une idée de ce que coûte une émission comme La Passe, si j'y suis. C'est-à-dire que ça vous coûte quasiment rien. Et ça veut dire que nous ne valons à peu près rien du tout. Intéressant, non? Intéressant de voir comment fonctionne l'impôt. Eh bien, cet impôt n'est pas juste. Et non, il n'est pas juste parce que tous ceux qui payent la redevance payent la même redevance, 120 euros par an. Donc ça fait, bon, pour ceux qui gagnent normalement leur vie, bien leur vie, c'est pas beaucoup, 120 euros. Mais pour ceux qui font partie des 8 millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est une somme rondelette. Et là, on trouve une philosophie des impôts qui est celle soit d'un impôt progressif, qui suit les revenus de chacun, ou bien un impôt imposé à tous de la même façon, qui est un impôt injuste. C'est-à-dire que Madame Bettencourt paye la même redevance que quelqu'un qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça n'est pas juste. On voit bien tout de suite comment on peut génialement financer une entreprise géniale, bien sûr, et modeste, comme Radio France, mais on peut le faire d'une façon juste ou non. Voilà, c'est ça l'impôt. Et on va voir avec François Ruffin, aujourd'hui, comment est née cette impôt-phobie. Et on va en avoir un exemple tout de suite dans cette première chanson. C'est Là-bas si j'y suis, c'est Vive les impôts, fiscalité, la fabrique de l'inégalité.
Salut mec, ça va?
Tu vas bien?
On se présente?
Mais non, tu nous connais.
On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quarté, le quinté, c'est encore nous.
Le quinté plus.
On te ressuce. Faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignette et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto, droit d'immatriculation, PV, crash, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages.
Donc là, on est devant le lycée Delambre-Montaigne.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme suppression de poste alors ?
Alors, en Picardie, entre 2005, entre la rentrée 2005 et la rentrée 2009, il y a eu exactement 1675 suppressions de poste, ce qui représente plus de 12% de suppression de poste en 5 ans. 12% de suppression de postes dans le second degré dans l'éducation nationale en Picardie en 5 ans.
On a dégraissé le mammouth ?
On a dégraissé le mammouth de 12% en Picardie, oui.
Voilà, on est devant ce lycée à Amiens avec ses enseignants. Quel lien entre quelqu'un comme Pierre Bérégovois et le lycée Montaigne d'Amiens ? Question.
Je pourrais juste rajouter concrètement Allez. Ce qui peut se passer pour nous dans les classes. Là, on vient d'apprendre, par exemple, il y a deux jours, qu'on a un demi-poste de surveillant en moins au lycée. Et après, on nous reparle de la sécurité pour les élèves à l'intérieur du lycée, ce genre de choses.
Et mon compagnon qui bosse en SECPA, il se retrouve avec des classes de SECPA. Donc les SECPA, hein, c'est les enfants qui ne suivent pas le cursus, la classe, comment ils disent ça, classique, parce qu'ils ont des difficultés, etc. Donc ils ont des instits en phase 2 et puis ils apprennent un métier. Et ils sont montés là à 16, 17, 18, 19 cette année, alors que c'est des enfants pas faciles à gérer, quoi, souvent, qui sont en rupture de scolarité, etc. Parce qu'il y a eu regroupement, Rimbaud, enfin voilà, encore suppression de postes, regroupement, rationalisation des moyens, quoi. Ça veut dire des conditions de travail toute l'année qui vont vraiment être plus compliquées pour les enfants comme pour les instits, quoi.
Enfin, et avant, ils étaient à combien, c'est quoi ?
Bah, ils étaient un peu moins, ils étaient 12, 13, ça a l'air de rien, mais 3, 4 élèves difficiles, c'est compliqué à gérer, quoi.
Attendez, j'ai une citation de Sarkozy qui dit, alors je ne sais pas faire les haussements d'épaule comme lui, hein, vous me pardonnerez, « Nous avons diminué le poste de fonctionnaires dans notre pays comme jamais. Nous avons supprimé 100 000 postes de fonctionnaires en 3 ans. Dans le budget 2011, nous en supprimerons encore 34 000. La France ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. » Et la phrase d'après est dit « Augmenter les impôts, je m'y refuse totalement. » Est-ce que vous voyez un lien entre ce raisonnement et votre situation d'enseignant ?
Le lien, je le vois bien, c'est pas compliqué, les impôts, c'est ce qui paye effectivement les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est les infirmières, c'est les profs, c'est les gardiens de prison, c'est tous les fonctionnaires donc, qui ont une utilité. Donc à partir du moment où on n'augmente pas les impôts ou qu'on les baisse, forcément, on a moins de fonctionnaires. Donc ça veut dire que c'est un choix de société. Hein, là, dans cette société-là, c'est ceux qui ont de l'argent, bah, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et puis ceux qui n'ont pas d'argent, bah, ils font très peu. C'est pas plus compliqué. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Vous êtes prof d'éco.
Ouais.
Ouais.
Oui, oui.
Et alors, est-ce que vous dites que c'est la faute à Bérégovois ?
Bérégovois, c'est vieux, ça. Hein. Qu'est-ce que vous avez contre Bérégovois ?
Non, parce que Bérégovois est le premier, dans les années 80, à avoir diminué les impôts. Il a fait passer l'impôt sur les sociétés, qui était, je crois, de 50% à 45%. Ensuite, il est revenu au pouvoir et il l'a fait passer à 33%. L'impôt sur les sociétés, la course à la diminution des impôts, elle est engagée dès le milieu des années 80.
Et donc, c'est les socialistes qui l'ont entamé, ouais, d'accord.
Bon, bah écoutez, je vais vous laisser aller faire monter la grève générale et les barricades. Et puis moi, je vais aller faire les liens donc entre Balladur, Bérégovois, Fabius,
Bettencourt,
Sarkozy, Woerth et ainsi de suite. Et les suppressions de postes au lycée Montaigne de Lambre.
J'ai pris des engagements au nom de la France avec le Premier ministre et le gouvernement pour réduire les déficits.
Nicolas Sarkozy, 12 juillet 2010.
Tenez-vous bien, cela fait 40 ans que la France présente un budget en déficit. Eh bien, c'est plus possible. Mais la première étape, c'est 6% en 2011.
En 2011. Sur 3 ans, ça représente 100 milliards d'euros. Où est-ce qu'on trouve aujourd'hui 100 milliards d'euros à économiser sur le budget de l'État ?
Alors, premièrement, nous avons diminué le nombre de postes de fonctionnaires dans notre pays comme jamais. Nous avons supprimé 100 000 postes de fonctionnaires en 3 ans. Dans le budget 2011, nous en supprimerons encore, M. Barouin a donné les chiffres, 34 000. Il n'y a pas d'autre choix, David Pujadas.
Mais la plupart des économistes, et beaucoup aussi dans votre propre camp, disent Si on veut atteindre ces objectifs, on ne peut pas le faire sans augmenter les impôts.
Eh bien, je m'y refuge totalement.
Donc là, Daniel, on est dans le hall de l'Assemblée nationale.
Devant les portails électriques, où on dépose les sacs pour voir si on n'a pas mis le poignard pour assassiner notre élu préféré. Et on vient ici parce que c'est quand même ici, à l'Assemblée nationale, que se votent les budgets, c'est-à-dire les dépenses et les recettes. Les dépenses d'éducation, de justice, de santé, d'armée. Et les recettes, les impôts, c'est ici que ça se vote tous les ans. Donc on va aller rencontrer une série de députés, puisque c'est ici quand même que se décide s'il y aura plus ou moins d'infirmières au CHU d'Amiens, plus ou moins de profs au lycée Montaigne de Lambre, toujours à Amiens, mais aussi à Rennes, à Nantes, à Lille, à Marseille, à Toulon, à Nice. C'est en partie ici que ça se décide. Il y a un lien très direct, mais invisible, entre ici l'Assemblée nationale, l'entrée de l'Assemblée nationale, et le lycée Delambre-Montaigne à Amiens. Monsieur Gilles Carrez, on est dans votre bureau, à la Commission des Finances. Vous êtes député UMP, vous êtes rapporteur général de la Commission des Finances, et ça, pas depuis hier, mais depuis 2002. Et vous avez rendu un rapport qui pointait notamment toutes les baisses d'impôts intervenues depuis une dizaine d'années.
Exactement. Et moi, j'observe, en ayant étudié de façon très précise ce qui s'est passé depuis 10 ans, et donc je montre que, et sous le gouvernement Jospin, donc socialiste, à partir de 2000, et depuis 2002, si on prend toute cette période, les recettes du budget de l'État ont diminué de 100 milliards d'euros. Ça se répartit 30 à 40 milliards dans la période 2000-2002, et puis le reste depuis. Et je pose la question, est-ce qu'en face, les dépenses ont-elles diminué également de 100 milliards? Or, à l'évidence, non. Et donc, ces baisses d'impôts faites depuis 10 ans, elles ont été financées, en réalité, par le déficit.
Donc, finalement, le déficit qu'on a aujourd'hui, c'est pour l'essentiel un déficit de recettes, un déficit d'impôts, des impôts qu'on aurait baissé de l'équivalent de 100 milliards d'euros par an. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ces 100 milliards d'euros? C'est quoi, par exemple?
Il y a tout. Je vais prendre, par exemple, les baisses d'impôts de 2000, les baisses Fabius, parce qu'elles ont été considérables, plus de 15 milliards d'euros. Il y a eu baisse d'un point de la TVA, taux général. Il y a eu baisse de l'impôt sur le revenu. Il y a eu suppression d'une partie de la taxe d'habitation qui était payée aux régions. Suppression de la part salaire, c'est-à-dire un bon tiers de la taxe professionnelle, déjà à cette époque. Vous additionnez le tout, 15 milliards d'euros qui ont été décidés pratiquement en quelques jours au printemps 2000.
Pour un bon équilibre, là vous avez cité Fabius. Quand on regarde, j'ai lu votre étude, il y a un graphique et notamment il y a deux moments où on voit les impacts des baisses d'impôts sur le budget général de l'État. Il y a deux moments, donc il y a 2000-2001 et le deuxième moment fort, c'est 2006-2007.
En 2007, évidemment, il y a eu la loi TEPA. La loi TEPA avec des exonérations importantes pour les heures supplémentaires, mais il fallait bien sortir des 35 heures, donc ça coûte. Exonération de l'impôt sur le revenu, exonération de CSG au titre des heures supplémentaires. Il y a eu la baisse des droits de succession. Bon, ça s'est fait tout de suite 800 millions d'euros. Et puis, il y a eu la possibilité d'investir son ISF dans les PME.
Son impôt sur la fortune.
Voilà. Et puis, il y a eu le renforcement du bouclier fiscal, parce que contrairement à ce qu'on croit, le bouclier fiscal n'a pas été créé en 2007, il a été créé dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu sous le gouvernement Villepin. Mais il a été renforcé. Et donc, on voit bien dans mon rapport que là, à nouveau, on a des baisses d'impôts.
Alors, il y a deux solutions. Soit on augmente les impôts, soit on baisse les dépenses. Là, je lisais, c'est les Échos d'aujourd'hui. Il y a une interview de l'entrepreneur milliardaire belge Albert Frère à l'intérieur. Et il parle de la dette de la France, de la dette des États. Il dit « La dette des États est la somme de 30 ans de laxisme.
Il n'y a pas d'autre réponse qu'une réduction des dépenses publiques. Donc voilà, il ne parle pas d'impôts, Albert Frère, il dit il n'y a pas d'autre solution qu'une réduction des dépenses publiques. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, c'est une économie de 500 millions d'euros par an. Si jamais il s'agissait de combler les 60, 80, 100 milliards de déficits structurels par an, ça veut dire que c'est une suppression de fonctionnaires par million là, qu'il faudrait.
Dire que la seule issue, c'est de diminuer les dépenses publiques, c'est projeter un modèle de société qui n'est pas forcément celui dont nous voulons. Quand on est milliardaire, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'aller au bureau d'aide sociale de la mairie pour avoir un coup de main pour payer sa facture d'électricité. La société, pour fonctionner de façon harmonieuse, elle a besoin de charges communes, de dépenses. Et c'est comme ça depuis qu'il y a des sociétés organisées. Et face à ces charges communes qui font le bien-être de chacun, la sécurité, aujourd'hui la santé, face à ces charges, l'éducation, la justice, face à ces charges, il faut des recettes. Et dire que le problème des finances publiques ne peut se traiter qu'en réduction de dépenses, je conteste complètement cette analyse. Complètement.
Voilà, Gilles Carré, UMP, rapporteur à la Commission des Finances et rapporteur de ce texte qui a éclairé quand même de façon assez forte la question du déficit du budget de l'État. Puisque ces 100 milliards, vous avez compris, sont dus à ces baisses d'impôts qui ne sont pas le monopole exclusif de la droite. C'est un homme de droite qui nous parlait, UMP. Voici un homme de gauche avec son point de vue à lui bien particulier, Henri Emmanuelli.
Monsieur Henri Emmanuelli, on est dans votre bureau. Pour parler des impôts, on n'est pas venu vous voir par hasard puisque vous avez été ministre chargé du budget, ou plus exactement secrétaire d'État chargé du budget entre 1983 et 1986. Président de la Commission des Finances régulièrement en 91, 92, 97, 98, entre 2000 et 2002. Donc c'est pas par hasard qu'on vient vous voir pour parler des impôts. Bêtement, moi, le raisonnement, si je viens parler des impôts, c'est que depuis des années, on entend qu'il y a des déficits, qu'il faut réduire les dépenses, donc les postes d'infirmiers, d'enseignants, qu'il faut supprimer 34 000 emplois de fonctionnaires cette année, ainsi de suite. Et on se dit, il y a deux solutions dans ce cas-là. Soit c'est on diminue les dépenses, c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, soit on augmente les recettes, donc on augmente les impôts.
Alors si on fait un peu de rétrospective, j'irai jusqu'à l'année 2000, disons sur les 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Il s'est passé en réalité qu'entre la gauche et la droite, parce que c'est la gauche qui avait commencé, on a réduit très sérieusement les recettes. On a supprimé à peu près 300 milliards de francs. Et vous constaterez que ça correspondait au déficit chronique que le budget enregistrait en période normale depuis 2002 jusqu'à la crise, disons. Parce qu'on était déjà en déficit de 48, 50 milliards d'euros. On ne dit jamais aux Français, oui, il y a un déficit budgétaire, parce qu'en réalité, on a supprimé 300 milliards de francs. Alors, rien que la gauche, souvenez-vous, la vignette disparue, 12 milliards de francs. La base salaire dans la taxe professionnelle, 75 milliards de francs à l'époque. C'est-à-dire, rien qu'en ces deux mesures, on est quasiment à 100 milliards. Après, on a touché à l'impôt sur revenu. Souvenez-vous, c'est l'époque où, y compris des socialistes, font des tribunes libres pour dire faut baisser les impôts ou on va être battu aux élections, quoi. On les a baissés, vous avez vu comment on a été élus, quoi.
Là, j'ai une citation de Laurent Fabius, dans Le Monde, le 1er septembre 2000. Eh oui. Je présenterai un plan d'allègement et de réforme des impôts qui sera le plus ample des 50 dernières années.
Voilà. C'est de ça que je parlais. Et de quelques autres. Parce qu'il n'était pas tout seul. Hein. C'était la mode. Tony Blair, les socialistes espagnols, tout le monde était, n'est-ce pas? Puis la droite est arrivée et elle a continué massivement. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est pas un mystère, c'est pas un mistigri. Bon, alors on va me dire, oui, mais il n'y avait qu'à supprimer les dépenses. Aujourd'hui, on est dans une situation loufoque. Je vais prendre là aussi un exemple qui parle. Monsieur Woerth est venu l'année dernière, il s'est vanté à la tribune de l'Assemblée nationale en présentant le budget, il nous a dit, voilà, entre le budget 2008, le budget 2009 et le budget 2010, j'aurais supprimé 100 000 emplois dans la fonction publique. dont 50 000 dans l'éducation nationale, 10 000 chez les policiers, ce qu'il oublie de dire, etc. Et puis, c'est un exploit parce que ça va nous permettre d'économiser 500 millions d'euros. Moi, je suis monté à la tribune derrière, je lui ai dit, écoutez, j'ai l'impression de rêver là. Parce que vous nous expliquez que vous avez supprimé 100 000 emplois dans la fonction publique pour faire 500 millions d'euros d'économie, et puis vous avez dépensé 3 milliards d'euros pour la TVA des restaurateurs. Donc le bilan, c'est moins 2,5 milliards d'euros. Donc non seulement vous avez aggravé le chômage, mais en plus vous nous avez collé des déficits supplémentaires. Et vous nous dites que c'est un exploit. J'ai essayé d'expliquer ça dans la presse un peu partout, ça ne ressort pas. C'est absent. Bon, rien que cet exemple-là. L'amendement Copé, c'était quoi l'amendement Copé en 2007? C'est un amendement qui constituait à dire les grandes sociétés qui vendront des filiales, elles ne paieront plus de ce qu'on appelle les plus-values, c'est-à-dire d'impôts sur les ventes, sur la vente. Il nous avait dit que ça coûterait 1,5 milliard d'euros. Ça a coûté 20 milliards d'euros en 2 ans.
Donc 10 milliards d'euros par an?
Ah ben oui, à peu près 10 milliards d'euros en moyenne par an. Les bénéficiaires ont été les sociétés du CAC 40 à plus de 80%. Donc quand on nous dit après, il n'y a pas d'argent, on ne sait pas comment faire. Mais si, on sait comment faire.
Là, j'ai fait parce que 10 milliards d'euros, vous savez, pour moi, ça, c'est 10 et puis il y a 9 zéros derrière, mais oui. Ça ne représente pas grand-chose.
Oui, mais c'est les finances publiques.
Ouais. J'ai converti en poste d'infirmière à chaque fois.
Oui.
10 milliards d'euros en poste d'infirmière, vous savez?
Ouah, c'est plus de 500 000, puisque 100 000 emplois dans la fonction publique, c'est 500 millions d'euros par an. Alors 10 milliards d'euros...
Moi, j'ai calculé 300 000 à peu près.
Oh, oui, plus que ça, à mon avis.
C'est
l'amendement Copé à lui tout seul, oui, il coûte plus cher que 300 000 infirmières, oui.
C'est passé discrètement?
Absolument.
C'est technique, enfin, on n'y comprend
discrètement,
rien.
Discrètement, c'est là qu'on a un vrai problème, vous et nous, si j'ose dire. C'est pas passé discrètement, il n'y a pas eu un budget, il n'y a pas eu un collectif où on n'a pas mis ça sur la table. Mais, comme plus personne ne suit les travaux à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est passé à l'as, quoi.
Enfin, l'équivalent de 300 000 postes d'infirmières supprimés.
Et encore, à mon avis, je pense que vous êtes en dessous.
L'Assemblée nationale, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger.
Je vous en prie.
Est-ce que je pourrais avoir le bureau de monsieur Copé, s'il vous plaît, Jean-François Copé?
Oui.
Monsieur Copé, bonjour.
Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je fais un sujet sur la fiscalité.
Mm-hmm.
Et j'aurais voulu poser une question à monsieur Copé.
Alors, je vais surtout vous donner les coordonnées de son service de presse.
Ok, je vous remercie.
Je vous en prie, monsieur.
Au revoir. Au revoir.
Service presse UMP.
Oui, bon, je suis bien au service de presse de monsieur Copé.
Oui, tout à fait.
Oui. J'aurais bien voulu poser une question ou par votre biais à monsieur Copé, avoir une réponse.
Alors, pour ça, il faut envoyer un mail à son attaché de presse.
Ok, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir. Au revoir. Bon, ben, j'écris aussitôt le mail à monsieur Copé. Voilà, comme bon, j'ai écrit. Dans la case objet, j'ai mis des regrets, point d'interrogation. Reporter à France Inter préparant une émission sur les impôts, je fais suite à notre conversation téléphonique. Au cours de mes brèves recherches, j'ai découvert que 1. M. Copé, alors ministre du Budget, avait coproduit une niche fiscale sur les pleuvalisations. 2. Cette dépense fiscale devait ne coûter que 1,5 milliard d'euros par an. Elle revient en fait autour de 10 milliards d'euros. 3. M. Copé a souhaité imposer fiscalement les indemnités versées lors des accidents du travail. Ouais, parce que Jean-François Copé a décidé qu'il fallait imposer fiscalement les accidents du travail. Et l'élimination de cette niche, puisque c'est lui qui appelait ça une niche, hein, c'est un privilège de pas avoir ces indemnités d'accident du travail défiscalisées. Là, c'est une niche et c'est un privilège. L'élimination de cette niche devait économiser 150 millions d'euros par an. Donc on a bien dit 10 milliards pour les plus-values de cession qu'on offre aux entreprises, 150 millions qu'on reprend aux salariés. Donc je pose la question ensuite. D'un côté, donc, on épargne 150 millions sur les salariés victimes d'accidents du travail. De l'autre côté, on dépense 10 milliards, donc 60 fois plus. Hein, 60, on donne 60 fois plus aux entreprises qu'on ne reprend aux salariés. N'y a-t-il pas là une injustice évidente? Deux poids, deux mesures. Monsieur Copé regrette-t-il ses choix? Entre parenthèses, tout le monde peut se tromper et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous remercie d'avance pour votre réponse. François Ruffin. Bon, et je donne mon numéro de portable. Donc, je pense que le service de presse de monsieur Copé va nous répondre rapidement pour nous dire si oui ou non c'est une injustice de donner 10 milliards aux entreprises tandis qu'on reprend 150 millions aux salariés. Donc, Je vais attendre ce coup de fil du service de presse de Jean-François Copé. Près de mon portable, en attendant qu'il sonne.
En attendant, on va rencontrer Thomas Piketty, qui est un économiste et qui a beaucoup travaillé sur les impôts, tout simplement.
Alors, Thomas Piketty, là, attendez, où est-ce que je lis mon bouquin ? Je suis en train de lire la biographie de Joseph Caillaux, le ministre des Finances qui a porté sur les fonds baptismaux l'impôt sur le revenu. Ce que je découvre, c'est que, d'abord, en 1848, il y avait déjà l'idée d'un impôt sur le revenu, qui était rejeté par M. Thiers en disant l'impôt direct est celui des pays barbares, donc il préférait l'impôt en direct. En 1871, juste après près l'Empire, l'idée d'un impôt sur le revenu revient, Thiers revient à nouveau en disant qu'il ne faudrait pas semer des germes de discorde, l'homme qui venait de faire tirer sur la commune deux mois avant, puisqu'on est en 1871. Ensuite, de 71 à 98, je vois qu'il y a eu une centaine de propositions formulées par des députés qui ont toutes été rejetées de création d'un impôt sur la fortune. D'un impôt sur le revenu. Et ça n'est proposé par Joseph Caillaux donc en 1907, à un taux de 3 à 5% à l'époque, donc ce n'est pas très élevé. C'est discuté pendant 2 ans. Le projet est quand même discuté pendant 2 ans à l'Assemblée nationale. C'est hallucinant. On se dit, là, il y a une résistance. Non seulement ils ont résisté pendant 60 ans pour que ça ne passe pas, au moment où ça arrive devant l'Assemblée nationale, ça y reste pendant 2 ans. Le gars se fait traiter de tous les noms. Le gars, c'est Caillaux. Il se fait traiter de tous les noms. On lui dit que son projet constitue un péril national et ainsi de suite. Il est soutenu par Jaurès. Donc au bout de 2 ans, le projet passe en mars 2009. Là, il est encore retardé par le Sénat. Parce que là, on croit que c'est fini. On croit qu'il a gagné. Le Sénat, il bloque le truc. Et en fait, c'est juste parce qu'il redevient ministre en 1914, Caillaux, au moment de la guerre, de l'entrée en guerre. Et là, et en fait, ça n'est que très partiellement mis en œuvre, même en 1914. Enfin, il y a un déchaînement de toute la bourgeoisie contre Caillaux, à tel point qu'il y a une campagne de presse qui est menée, notamment par le Figaro, qui dure pendant 3 mois, où on le traite de plutocrate démagogue, on l'accuse de corruption, on l'accuse de tout, d'être un agent de l'Allemagne, et ainsi de suite. On sort des lettres intimes, à tel point que la femme de Caillaux va aller voir le directeur du Figaro avec un flingue, et tuer le directeur du Figaro avec 5 balles dans la tête. Donc on dit que là, quand il s'agit d'installer un impôt progressif, un impôt sur les revenus, il y a eu une résistance en face qui était absolument considérable, qui au fond, enfin je ne sais pas, c'est une lecture historique du XXe siècle, mais vous allez me corriger, je viens vous voir pour ça. Au fond, pour des raisons historiques, parce qu'il y a eu la révolution russe, parce qu'il y a eu la menace en 1945, le compromis, on va dire, entre les gaullistes et les communistes, il y a eu une acceptation de cet impôt sur le revenu, même dans les années 70, je regardais des archives de l'INA, il y avait des députés de droite, Michel Poniatowski, Didier Bariani, donc pas des super progressistes, mais qui demandaient à renforcer l'impôt sur les successions, à créer un impôt sur la fortune. Donc le vent souffle dans le dos des progressistes pour créer des impôts comme ça, et tout retombe dans les années 80, où là, quand je consulte, je vais à la documentation de Radio France, Claire Chazal, elle est journaliste aux Échos à l'époque, Claire Chazal, elle fait des papiers en disant « Regardez la révolution fiscale américaine, c'est vers ça qu'il faut aller. » On a des universitaires qui prennent la parole en disant « Il ne faut plus d'impôt sur le revenu du tout. » Donc on a l'impression que là, il y a eu un compromis jusqu'à la fin des années 70, et là, tout bascule dans les années 80, comme s'il y avait un relâchement à gauche et puis qu'on revenait au débat du moment où Caillaux il tente d'instaurer son impôt sur le revenu.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette lecture. Je tire plusieurs leçons de ça. Premièrement, la capacité des possédants à faire preuve de mauvaise foi pour défendre leur bout de gras est absolument sans limite. Et elle était sans limite en 1900-1910 quand il s'agissait de repousser absolument cet horrible impôt sur le revenu qui n'avait pourtant dans le projet de Caillaux qu'un taux maximal de 5%. Mais pendant 20 ans, 30 ans, les possédants ont fait en sorte de le repousser. Et pourtant, on était dans une société qui était formellement démocratique, enfin avec une presse libre, des élections. Et je pense que c'est une leçon qui vaut encore pour aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, on est une société démocratique, mais la capacité d'une minorité à défendre ses intérêts et à faire preuve d'une mauvaise foi absolument sans limite pour prétendre que c'est l'intérêt général, que leur intérêt particulier se confond avec l'intérêt général, et pour finir, pour ne pas payer d'impôts, pour en payer le moins possible, cette capacité-là est sans limite. Et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience. Et leur capacité aussi, chez certains journalistes, à défendre ce type d'agenda politique et ce type de discours.
En 1924, j'ai lu que la tranche marginale de l'impôt sur le revenu
ça montait jusqu'à 90%. Enfin, les plus hauts revenus des plus hauts revenus pouvaient être taxés jusqu'à 90%. Aujourd'hui, on est à 40% et en plus, il y a le bouclier fiscal.
Oui, tout à fait. On observe dans les années 20, donc c'est même une chambre de droite, hein, le Bloc national qui vote ça dans les années 20 en France. On observe le même phénomène aux États-Unis dans les années 30, où c'est Roosevelt, qui n'était pas du tout un bolchevique, qui vote un taux supérieur d'imposition à 91%, qui s'appliquera aux États-Unis jusqu'aux années 60. Hein, on oublie ça complètement. Et pendant un demi-siècle aux États-Unis, des années 30 jusqu'aux années 80, le taux le plus élevé d'imposition était de 82% en moyenne, hein, pendant un demi-siècle aux États-Unis. Bon, de toute évidence, ça n'a pas tué le capitalisme américain. Vous voyez, on va se battre dans la rue pour défendre les retraites, et c'est très bien. Personne ne va se battre dans la rue pour défendre l'impôt progressif. Et je pense que c'est un peu le cœur du problème, c'est qu'on ne s'est pas vraiment approprié ces instruments démocratiques essentiels comme quelque chose de fondamental pour transformer la structure du capitalisme et des inégalités.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Ne quittez pas, nous allons vous répondre dans un instant.
Service de presse, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je prépare un sujet sur les impôts.
Super, bonne journée.
Au revoir, monsieur. Allô ?
Allô, bonjour.
Je suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter. J'avais...
Monsieur ?
Ruffin.
R-U-2-F-I-N.
Exactement.
Et votre prénom ?
François. Et j'avais déjà laissé un message et on devait me rappeler.
Ne vous inquiétez pas, je lui fais le petit peu de rappel.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Au revoir.
Welcome to the Ministry for the Economy, Industry and Employment.
Service de presse de Christine Lagarde, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai déjà appelé à plusieurs reprises et je souhaiterais comprendre en fait comment ça se fait que.
On va lui faire une petite piqûre de rappel, on va lui demander de vous rappeler dès qu'il sort de chez lui. Allô ?
Oui, bonjour, je suis bien au bureau de
Madame.
Le
service de presse de François Baroin.
Merci.
Mettez tout ça dans votre mail.
Ok.
Alors, je vais surtout vous donner les coordonnées de son service de presse. Bonne journée. Alors, pour ça, il faut envoyer un mail à son attaché de presse.
Je vous remercie, Madame.
Je vous en prie.
Au revoir.
Pourquoi vous avez...
Ben, je viens parce qu'en fait, je fais un reportage sur les impôts. Et donc, ça fait 2-3 semaines que je cherche à contacter Madame Lagarde, Monsieur Baroin, Monsieur Estrosi, Monsieur Novelli, et pour savoir un peu comment ça se fait que Liane Bettencourt paye entre 5 et 10% d'impôts.
Vous n'avez pas pris contact avant ?
Ah si, j'ai téléphoné un tas de fois. Ouais, ouais.
Vous passez tout...
Tout le matériel, on est obligé d'enlever même là.
Métallique dans vos poches. Métallique et magnétique, s'il vous plaît.
D'accord.
Voilà, bah oui. Alors, quand les gens répondent pas au téléphone, bah on va les voir. C'est une solution quand on sait où ils habitent, quand ils sont finalement nos élus, et qu'ils prennent des décisions en notre nom. Il semble normal qu'un citoyen, surtout un journaliste qui est là pour éclairer les citoyens, c'est ça le journaliste, hein, c'est éclairer les citoyens, poser des questions, prendre des notes, comprendre, faire comprendre. Bon, alors comme ces gens sont très occupés, nos reporters, les reporters de la base où j'y suis, vont donc sur le terrain pour enquêter, pour comprendre, dans l'espoir de faire comprendre.
Portique de sécurité passée. Merci, monsieur. On se dirige vers l'accueil. Bonjour.
Je suis reporter pour France Inter. Ça fait 15 jours, 3 semaines que je fais un reportage sur les impôts. Et je cherche à contacter le cabinet de Madame Lagarde, Monsieur Baroin, pour avoir des informations, pour comprendre comment ça se fait que Madame Bettencourt était taxée aux entre 5 et 10%, alors que bon, il y a plein de gens qui le sont au-dessus de 10. Moi, je l'étais à 15,5. Donc, j'ai posé cette question une série de fois. Et j'ai pas eu de réponse, donc je me suis dit, bah tiens, je vais venir directement demander à Madame Lagarde, au ministère de l'économie ou à Monsieur Baroin. Oui. Bah, j'ai demandé un paquet de fois un rendez-vous, j'ai pas eu de rendez-vous. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais venir sur place.
Non, là, Madame Lagarde ne reçoit Lagarde, pas sans rendez-vous. Le planning, il est archi complet.
Il n'y a pas quelqu'un de la communication qui pourrait descendre quand même qu'on...
On peut toujours appeler, voir si elle peut vous recevoir.
Hein. On va se mettre dans le coin, peut-être. Donc, c'est bon là, le son. Nous voici donc à Bercy, au ministère de l'économie. C'est ici, derrière des portails électriques et des raisons techniques, derrière des portes fermées et des dossiers compliqués, c'est ici que se cachent les hommes et les femmes qui ruinent la France.
C'est ici que depuis 20 ans, les ministres et leurs conseillers ont baissé l'impôt sur les sociétés, truffé de niche l'impôt sur la fortune, supprimé l'impôt sur les successions. C'est d'ici que ruissellent les milliards vers les sociétés du CAC 40 et leurs PDG. C'est d'ici aussi que, pour équilibrer le budget, sont détruits des postes dans les écoles, dans les maternités. Il faut imaginer cela, une immense toile d'araignée aux fils invisibles, mais bien réels. Nous sommes au centre de cette toile, ici à Bercy, au ministère de l'économie, et des liens nous relient directement au compte en banque de Mme Bettencourt, directement au beau chapeau de Mme Woerth, directement au lycée Montaigne ou à l'hôpital Saint-Victor d'Amiens. C'est ici qu'ils se terrent, comme dans une tanière.
Vous avez demandé à qui l'autorisation ? Parce que on n'a aucune note de la CIRCOM, rien du tout.
Non, mais s'il vous plaît, vous n'enregistrez pas.
D'accord.
Mais il ne faut pas enregistrer,
en fait,
s'il vous plaît.
Hein. D'accord. C'est pour comprendre comment ça se fait que Mme Béton...
Merci. Voilà, c'est Mme Elio.
Alors, je suis François Ruffin de France Inter. J'avais déjà laissé des messages, comme quand j'appelle Mme Lagarde, M. Estrosi, M. Nevoli ou M. Barouin. Je n'ai pas de réponse. Je me suis dit, bah tiens, pour avoir une réponse, quand même, je pense que si je viens sur place... Enfin, quand on sonne à une porte, généralement, la porte s'ouvre. Donc, je me suis dit, je vais aller sur place pour voir un peu... Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Alors, j'ai un numéro à rappeler dans 5 minutes, là, c'est occupé, mais ils ont dit de rappeler dans 5 minutes, quoi.
D'accord.
Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On refait un petit plateau, là, peut-être ?
On retente, ouais.
Ouais, on va refaire un petit plateau. Ça vous dérange pas ?
Si. Oui, on fait un plateau.
Ah bon ?
Non, à l'extérieur, pas dans l'ensemble du ministère. Hein.
On peut faire style plus neutre BFM, non ?
BFM ? Ouais, regardez la caméra, ouais, tu sais, j'ai pas l'habitude. Chers amis riches, bonjour. Ça va, là, le ton ?
Refait.
Chers amis riches, bonjour. Nous voici donc à Bercy, au ministère de l'économie. C'est ici, camarades actionnaires, c'est ici que depuis 20 ans, les ministres, leurs conseillers, se chargent de votre bonheur. Pour vous, ils ont baissé l'impôt sur les sociétés, truffé de niche l'impôt sur la fortune, supprimé l'impôt sur les successions. C'est d'ici que ruissellent les milliards vers les sociétés du CAC 40, vers leurs PDG, vers leurs héritiers. On aimerait les embrasser tous, le moindre agent qui passe dans ce hall, à pleine bouche, pour tout le bien qu'ils vous font. Pour Madame Lagarde, hip hip hip.
Hourra !
Pour Madame Lagarde, hip hip hip.
Hourra !
Vous pouvez le faire avec nous ?
On va se faire expédier.
C'est pour quelle France Inter, vous connaissez ?
Ouais, mais non, ça
le matin, il y a une séquence...
Si,
le matin, il y a une séquence humoristique. Philippe Val nous a demandé d'être un peu plus caustique que Raphaël Mesrahi. Un peu Stéphane Guillon, vous voyez ?
Oui, d'accord, non, mais très bien, mais là, vous allez vous faire jeter, hein, c'est clair.
Vous voyez ?
Vous voulez pas faire avec nous, Madame Lagarde, et pipi pourra, parce qu'on a besoin de cœur. Non ?
Je ne suis pas contre, Madame Lagarde.
Ah oui, mais bah
justement, comme ça, vous pouvez faire les cœurs avec nous.
On va essayer, je suis pas artiste.
Allez.
Génial. Allez, on y va.
1, 2, 3. Pour Madame Lagarde, et pipi pourra. Voilà.
Super.
Ça fera un bon hip-hop.
C'était Fiscalité, la fabrique des inégalités, une nouvelle version du reportage de François Ruffin, diffusé en septembre 2010, avec la participation de Pascal Pascariello. Merci à Gilles Carrez, Henri Emmanueli, Didier, Corinne et à tous les professeurs du lycée Montaigne d'Amiens, ainsi qu'à Thomas Piketty. Demain, dans Là-bas, si j'y suis, à quelques heures de la demande officielle de reconnaissance d'un État palestinien aux Nations Unies, vous retrouverez Daniel Mermet et Guy Vanctil dans les territoires palestiniens. Bien évidemment, vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, et sur le site la-bas.org. À la technique aujourd'hui, David Federman et Jean-Philippe Jeanne, réalisation Bertrand Chometon et Franck Adhérer, assistante Marina Touillez et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.